Salutations à tout le monde. Je ne vous apprendrai rien aujourd'hui en vous disant que plus on regarde les bulletins de nouvelles, plus on lit les journaux, plus on se rend compte que les catastrophes et les calamités se multiplient actuellement sur la face de la Terre. Plus il y a de crises humanitaires de toutes sortes. Il y a bien des endroits dans le monde qui sont aux prises avec des camps de réfugiés qui débordent. On n'en parle plus dans les nouvelles parce qu'on va aux plus récentes nouvelles, à ce qui est le plus frappant pour le jour ou la semaine. Et les autres sont pratiquement oubliés, mais ça continue. Les souffrances continuent pour ces gens-là. On voit, par exemple, beaucoup de crises humanitaires, dont celle des migrants qui essaient de gagner l'Europe en fuyant les désastres, la mort, ils ont tout perdu. Ils n'ont plus rien. Et ils n'ont même pas d'avenir parce qu'on ne veut pas d'eux. Et ils se demandent ce qui va leur arriver. Ces gens-là souffrent actuellement. Certains ont faim. La plupart ont faim, ont peur, sont désespérés dans certains cas. Plusieurs meurent en cours de route même. Alors ces choses-là, on les voit, nous, à notre époque, se produire parce que nous vivons à une époque particulière de l'histoire humaine, qui avait été annoncé dans la Bible, comme on verra tantôt. On voit aussi tous les actes de terrorisme qui se multiplient à travers le monde. Et à grande échelle, on a vu, il y a très peu de temps, la ville de Paris être le théâtre d'actes de terroristes majeurs, et tout le pays a été mis à genoux par rapport à ça. Même la Belgique a été touchée à côté. Ils sont encore en alerte parce qu'on n'a pas trouvé tous ceux qu'on soupçonne de préparer des attentats. Nos pays sont en situation de crise presque permanente et sous des menaces dont on ignore la provenance et le moment. Ça peut arriver à tout moment, n'importe où, dans toutes sortes de circonstances. Nous ne vivons pas dans des temps normaux. Nous vivons dans ce que la Bible appelle des temps difficiles. Et nous le voyons très bien. Et beaucoup de gens se demandent par rapport à ça, où est Dieu? Et c'est le titre de mon message aujourd'hui. Où est Dieu? La question serait peut-être mieux posée si je disais, pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas? C'est plutôt le sens des questions que les gens se posent par rapport à Dieu. Ils disent, s'il existe un Dieu, comment ça se fait qu'il permet toutes ces choses-là? Comment ça se fait que lui, un Dieu qu'on dit « bon », voit ces choses-là arriver et qu'il n'intervient pas? Très bonne question. Ce n'est pas illogique sur le plan humain. Lorsqu'on considère les choses du point de vue de Dieu et qu'on comprend qui est Dieu, ce qu'il fait, ce qu'il est en train d'accomplir, on peut voir pourquoi. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas le vrai Dieu, qui ne comprend pas son plan, la conclusion presque logique humainement, c'est de dire pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas? Il est le Tout-Puissant et il est bon. Ça veut dire, comme je souligne, que les gens qui posent une telle question ne connaissent pas vraiment le vrai Dieu et ne comprennent pas son plan. Quand Dieu nous appelle, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui nous est donné? C'est qu'on découvre quelle est sa nature. Et on découvre qu'il est, oui, tout-puissant, qu'il est bon, oui, qu'il est miséricordieux, oui, mais qu'il est en train d'accomplir un plan global pour l'ensemble de l'humanité et qu'il doit absolument permettre que certaines étapes arrivent pour que l'humanité soit vraiment libérée totalement. Dieu n'a pas laissé sa création aller à l'abandon, absolument pas. Dieu n'est pas un vieillard devenu incapable de prendre soin de ce qu'il a créé. Il est encore le Tout-Puissant, il règne en Tout-Puissant, mais certaines choses arrivent parce que Dieu permet qu'elles arrivent. Et il va aller plus loin que ça encore. Mais quand Dieu nous appelle, on découvre sa nature, on découvre son caractère, on découvre son plan. Et plus on apprend à connaître le vrai Dieu, à ce moment-là, plus on devient certain quant à l'issue de ces choses-là, moins on a de doutes et moins il y a de questions comme celle-là. Où est Dieu? Pourquoi Dieu n'intervient-il pas? Parce qu'on sait que Dieu est en train d'intervenir. Vous pourrez aller voir, si vous voulez, dans Malachie, chapitre 3, verset 6. Dieu se déclare lui-même sous un aspect spécial. Il dit, « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Dieu ne change pas. Il n'a pas besoin de changer non plus. Il est parfait, tout-puissant, juste. Dieu ne change pas. Et si vous allez voir dans Hébreux, chapitre 13, le verset 8, on a encore la même déclaration. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas et ce ne sont pas les événements qu'ils font changer non plus ou qu'ils mettent en échec. Absolument pas. Il est en contrôle. Et il est en train d'amener l'ensemble de l'humanité vers la délivrance totale. Et il permet certaines choses pour des raisons bien, bien précises. Dieu a tout créé. Il sait absolument tout ce qui se passe sur la surface de la terre. Il dit dans sa parole qu'il n'y a pas un oiseau qui tombe à terre sans qu'il en soit conscient, sans qu'il le sache. Et Dieu ne change pas, il accomplit le plan qu'il a déterminé d'accomplir. Quelle est la définition qu'on pourrait donner, peut-être la plus juste et la plus globale en ce qui concerne la nature de Dieu? On la trouve celle-là dans 1 Jean 4 et le verset 8. Ça dit ceci, « Dieu est amour. » Dieu est amour. Et quand on comprend ce que c'est l'amour de Dieu, à mesure qu'on apprend à le connaître, plus on se rend compte que c'est, je pense, ce qui le décrit de mieux dans son ensemble, son caractère total. Et l'amour dont il est question ici, ce n'est pas l'amour que nous, on peut connaître en tant qu'être humain. On connaît différentes sortes d'amour en tant qu'être humain. Ceux d'entre nous qui sommes des parents, on aime nos enfants. C'est une sorte d'amour, mais ce n'est pas amour comme Dieu est amour. Amour comme Dieu est amour, c'est au-dessus de ça. Comme des enfants aiment leurs parents, l'amour filial, on aime nos parents. Et c'est une sorte d'amour qui est louable, et même la Bible a établi un commandement là-dessus. Honore ton père et ta mère, aime-les, prends-en soin, reconnais-les, honore-les. OK? Alors, ça, c'est une autre sorte d'amour. L'amour entre conjoints, entre un homme et une femme qui sont mariés, c'est une autre sorte d'amour, mais ce n'est pas encore l'amour de Dieu comme tel. L'amour qu'est l'amour qui identifie Dieu, c'est à un autre niveau. Le terme qu'on trouve dans la Bible, je ne m'étendrai pas là-dessus, mais c'est le terme « agapé », qui est au-dessus de l'amour humain dans toutes ses sortes. Ça, c'est l'amour divin, l'amour de Dieu. Allez dans 1 Corinthiens 13. On va voir quelque chose ici en passant. 1 Corinthiens 13, que vous avez peut-être jamais vu sous cet angle-là. 1 Corinthiens 13, c'est le chapitre de l'amour. Et ça décrit Dieu qui est amour. Mais habituellement, quand on lit ce chapitre-là, on l'applique à nous. Qu'est-ce qu'on doit devenir? C'est vrai. Parce qu'on doit devenir comment? On doit devenir comme le Christ. Et on doit devenir comme le Père, parce que le Christ est exactement comme le Père. Alors, regardez ici ce qui est dit, 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4. L'amour est patient. Alors, on peut dire, Dieu est patient. Le plus patient des êtres qui existent, c'est Dieu. Et s'il n'était pas patient, nous ne serions pas là. Nous ne serions plus là. Alors, c'est pour ça que je vous amène sur ce paragraphe-là, avec l'idée de mettre ici les caractéristiques qui décrivent l'amour de Dieu, qui décrivent qui est Dieu. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Et Dieu est plein de bonté. Pourquoi est-ce qu'on peut voir, entendre, marcher, manger? C'est parce que Dieu nous a donné toutes ces choses-là et toutes ces possibilités-là. Dieu est rempli de bonté. Et une des bontés de Dieu qui est majeure, c'est la bonté qui nous pousse à la repentance, ceux qui sont appelés. C'est une des premières bontés que Dieu exerce envers ceux qu'il appelle, de nous montrer ce que nous avons à changer et de nous aider à changer. C'est par la bonté de Dieu qu'on peut le faire. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Dieu n'a pas besoin d'envier personne. Il est le gouverneur de l'univers. Il a tout ce qu'il peut vouloir avoir. L'amour ne se vante point. Le Christ ne s'est jamais vanté. Il a toujours dit qu'il était le serviteur de tous. Non seulement il l'a dit, mais il l'a prouvé. Il ne s'enfle point d'orgueil. Le Christ est l'image parfaite de l'humilité. Il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt. Dieu ne cherche point son intérêt, il n'a pas besoin de nous, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il voit le mal où le mal est, mais il n'impute pas le mal à qui le mal ne doit pas être imputé, parce qu'il nous connaît parfaitement, et il connaît parfaitement les motifs de chacune de nos actions. Voyez-vous, ça le place dans une position tout à fait unique par rapport à tous les êtres humains. Lui et le Christ. Il ne se réjouit point de l'injustice. Oh non! Au contraire, l'injustice le met en colère, pour ainsi dire. Et il veut mettre un terme à l'injustice. Et c'est pour ça que le Christ va revenir et qu'on l'appelle le roi de justice. Et quand il y aura justice sur la terre, là, il pourra avoir la paix, qui ne sera pas possible avant. Mais il se réjouit de la vérité. Il se réjouit de la vérité parce que la parole de Dieu est la vérité et qu'elle nous montre le chemin à suivre et que la parole de Dieu nous explique qu'est-ce qui s'en vient dans le temps et pourquoi nous vivons ce que nous vivons maintenant. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Et c'est vrai, Dieu nous supporte, Dieu est patient avec nous au maximum qu'il peut être patient et qu'il doit être patient jusqu'au moment où il doit tracer la ligne, dans certains cas, pour dire « on ne peut pas aller plus loin parce que vous avez eu toutes les chances que vous deviez avoir ». Alors, Dieu est amour. Il est patient, il est parfait. Il ne fait rien de mal et il n'est pas attiré par le mal. Et il ne veut le mal de personne, au contraire. On voit par la Bible que le but que Dieu a pour l'ensemble de l'humanité, c'est que tous parviennent au salut, c'est-à-dire à la vie éternelle. Et il va offrir à tous les êtres humains la possibilité d'avoir la vie éternelle s'ils choisissent cette voie-là. S'ils choisissent cette voie-là. Alors, Dieu aime tous les êtres humains. Certains n'y arriveront pas. Certains vont refuser. Et à ce moment-là, par amour, Dieu va leur enlever l'existence à jamais. Mais Dieu montre qu'il nous aime tous parce qu'il nous a donné ses commandements. Et c'est comme un bon père qui dit à ses enfants, « Voici comment faire pour ne pas être malheureux. Et voici comment faire pour être heureux. Ne volez pas, ne tuez pas, ne mentez pas. Croyez à ce que je vous dis. Faites ce que je vous dis en tant que votre père. » Et non seulement il nous a donné ses commandements, mais il nous a donné son propre fils dans des circonstances horribles, terribles, pour que nous puissions voir nos fautes être effacées et que nous puissions avoir accès à son trône de miséricorde pour être pardonnés, pour être secouru et pour avoir la possibilité d'aller vers la vie éternelle. Allez dans Deutéronome chapitre 7, s'il vous plaît. Deutéronome chapitre 7. Voici ce que Dieu attend de chacun de nous qui sommes appelés maintenant et de ce qu'il va attendre de ceux qu'il va appeler au début du millénium. Deutéronome 7 et le verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ça, c'est Israël ancien, la nation d'Israël choisie, la famille choisie dans l'Ancien Testament. Et ceux qui sont appelés maintenant, de toute langue, de toute tribu, de toute nation, la petite Église de Dieu, sont l'Israël spirituel moderne. Alors, ce qui est dit ici, pour l'ancienne nation d'Israël, ça s'applique à la nouvelle nation d'Israël, de niveau spirituel, nous qui sommes appelés maintenant. Ce n'est point parce que vous surpassiez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Voyez-vous, Israël était une toute petite nation à l'époque, comme nous sommes un tout petit troupeau à ce moment-ci de l'histoire. Mais parce que l'Éternel vous a aimé, parce qu'il nous a aimés le premier, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Comme nous, il nous a délivrés de notre ancienne façon de faire et qu'il nous aide à continuer dans ce sens-là. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Dieu est miséricordieux. Il nous pardonne quand il nous appelle et qu'on se repent. Et il est fidèle pour nous donner tout ce qu'il nous faut pour arriver au bout. Dieu ne change pas. Et son plan ne change pas. Et Dieu est parfait. Rappelez-vous Adam et Ève. Adam et Ève avaient été informés des lois de Dieu. Ils avaient été enseignés d'obéir à Dieu, mais ils se sont détournés de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a dû les chasser du Jardin d'Éden pour qu'ils fassent l'expérience de choisir par eux-mêmes quelle sorte de gouvernement ils voulaient avoir, quelle sorte de système d'éducation, quelle sorte de système économique, et ainsi de suite. Il leur a laissé un certain nombre d'années, de milliers d'années, en fait, pour faire cette expérience-là. Mais il les a chassés du Jardin d'Éden, pas parce qu'il les haïssait, par amour, pour qu'ils fassent l'expérience de ce qu'ils avaient choisi. Alors, à ce moment-là, est-ce qu'Adam et Ève pouvaient dire « Où est Dieu? » Est-ce qu'Adam et Ève auraient pu dire « Qu'est-ce que Dieu fait? Comment ça se fait que nous, on est maintenant en dehors du jardin initial où on avait tout à satiété facilement et que maintenant, on est dans un monde de plus en plus difficile? » Ils ne pouvaient pas reprocher à Dieu de ne pas agir. Dieu avait agi. Il leur avait donné tout ce qu'ils avaient besoin. Il les avait placés dans une situation idéale, mais ils avaient choisi eux-mêmes, et ça, c'était les conséquences qu'ils devaient supporter ensuite. Comprenez-vous qu'il aurait pu dire, « Qu'est-ce que Dieu fait? Il est supposé d'être bon. » Dieu aurait pu leur dire tout de suite, « Vous avez choisi. Continuez dans votre choix. Je respecte votre choix. Je vous aiderai en cours de route. Mais maintenant, vous devez aller plus loin dans ce sens-là. » Ça a été la même chose pour la nation d'Israël, remarquez. Exactement la même chose. Israël, lorsque cette nation-là s'en remettait à Dieu et qu'elle travaillait à lui obéir, qu'est-ce qui arrivait? Dieu les bénissait. Mais quand ils se détournaient de Dieu, commençaient à faire les choses à leur façon, là, les malheurs arrivaient, les calamités arrivaient. Si Israël avait dit, « Où est Dieu? Qu'est-ce que Dieu fait? » Dieu aurait pu leur dire, « C'est vous qui vous êtes détournés de moi. » Et c'est la même chose pour l'ensemble de l'humanité actuellement par rapport à tout ce qui se produit sur la face de la terre. Allez à Exode 2 et le verset 23. Exode 2, on va lire les versets 23 et 24. Dieu entend les prières. À ce moment-là, quand Israël ont été dans de grandes difficultés, quand ils ont été en esclavage en Égypte, ils ont crié à Dieu. Mais ce même Dieu-là entend les prières et il répond. Regardez. Exode 2, versets 23 et 24. « Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude, l'esclavage, montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et il se souvint de son alliance avec Abraham et Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. » Dieu entend les prières. C'est là qu'il est Dieu aussi. Dieu est en charge de sa création. Tout ce qui arrive, Dieu est au courant. Mais Dieu répond à ceux qui se tournent vers lui pour faire sa volonté. Exode 14, allons juste un peu plus loin. Quand Israël a été délivré de l'Égypte, après 10 miracles que Dieu a fait pour eux, ils sont arrivés sur le bord de la mer Rouge avant que Dieu ouvre la mer et leur permette de traverser. Qu'est-ce qui s'est passé? Exode 14, verset 10, « Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux au ciel, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'on ait besoin de nous mener au désert pour mourir? » Dieu ne les avait pas amenés là pour mourir, ça a été leur conclusion. Ils ont crié à Dieu. Et tout de suite après, au lieu d'attendre que Dieu intervienne, ils ont commencé à accuser le ministère de Dieu. Dieu a entendu ces gens-là critiquer Moïse et dire, « Moïse, tu nous as amenés ici pour nous faire mourir, pour l'accuser. » Ce n'est pas du tout ce que Dieu avait en tête en les amenant là. Dieu était en train de les délivrer à ce moment-là. Et regardez le verset 13, un peu plus loin. « Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien. » Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car Dieu est un Dieu qui délivre ceux qui se tournent vers lui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Voyez-vous, il y avait une situation catastrophique pour eux. Ils se trouvaient en plein milieu de cette situation-là. Il n'y avait pas d'issue. Mais ce qui arrivait au fond, c'est que derrière tout ça, Dieu était en train d'accomplir son plan de sauvetage pour eux. Il était en train de l'accomplir pour eux. Mais à leurs yeux, ça semblait quelque chose de différent. Ils ont douté de Dieu. C'est pour ça qu'on nous a dit si souvent dans le passé et qu'on nous répète encore, ne doutez jamais de Dieu. Faites ce que vous avez à faire pour lui obéir, demandez-lui son aide pour vous aider à changer, mais ne doutez jamais de Dieu, parce que Dieu est fidèle, Dieu est tout-puissant. Mais on a toujours le libre arbitre. Il faut être extrêmement prudent par rapport à ça pour l'exercer de bonne façon. Deutéronome 30, juste un peu plus loin. Deutéronome chapitre 30. Il y a des conséquences à chacun de nos choix. Deutéronome chapitre 30, et on va commencer à lire au verset 15. Ça s'appliquait à eux à ce moment-là, mais ça s'applique à nous aujourd'hui, à chacun de ceux que Dieu appelle en ces temps de la fin, où il y a tellement de bouleversements autour et de situations de plus en plus bouleversantes et qui peuvent être à certains égards stressantes et inquiétantes. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Dans le fond, c'est le même choix qu'il avait donné à Adam et Ève. Il avait mis devant eux le choix entre la vie et la mort, le bien et le mal. Verset 16, « Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, qui ne changent jamais, afin que tu vives. » Pourquoi? Pour que tu sois malheureux? Pour que tu aies un fardeau sur les épaules? Non! « Afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas prendre possession. Sinon, qu'est-ce qui allait arriver? Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, verset 18, « Je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. » Et la même chose s'applique à nous aujourd'hui qui sommes appelés. Nous sommes appelés à, pour ainsi dire, passer le Jourdain, à entrer dans le royaume spirituel de Dieu, à faire partie de son gouvernement. Verset 19. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, encore le choix, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin d'être béni, afin d'être encouragé, d'être supporté, protégé, guidé. Choisis la vie afin que tu vives. » Toi et ta postérité. C'est très clair, très, très clair. Et quand on sait ça, mais quand on sait ça, pas seulement intellectuellement, mais quand on sait ça intérieurement, par ce que Dieu nous a donné de comprendre à travers la Bible et par ce qu'il nous donne de comprendre à travers les expériences qu'il nous donne de vivre avec lui, quand on le voit répondre à nos prières, quand on le voit intervenir dans nos vies ou dans la vie de frères et sœurs de l'Église à travers le monde, quand on le voit répondre à des questions, à des besoins, ça devient solide et Dieu devient de plus en plus réel pour nous. C'est ce que ça veut dire, ça devient clair. Et plus c'est comme ça, moins il y a de place, comprenez-vous, pour dire « Où est Dieu? Qu'est-ce que Dieu fait? » Dieu fait les choses qu'il doit faire à sa façon, en son temps. Non pas au mien, pas en mon temps, ni à ma façon. Et c'est ce que je dois apprendre à expérimenter avec lui à mesure que je grandis dans la foi et que je marche avec Dieu. Dieu permet que certaines choses arrivent. Pourquoi? Pour avertir. Dieu avertit le monde actuellement dans tout ce qui se passe. Et quand il va devoir permettre que ça aille plus loin, il va permettre que ça aille plus loin. Et on voit par les Écritures que ça va... malheureusement, devoir aller plus loin parce que les nations n'entendront pas. Mais Dieu permet ces choses-là pour avertir, pour ébranler et ramener les gens à la raison. Mais tout ça a un but. C'est dans l'accomplissement de son grand plan pour que l'humanité finisse par comprendre et accepter de marcher dans ses voies. Mais en même temps, ces circonstances-là sont vécues par les membres de l'Église, par le petit troupeau actuellement. Donc, ça devient aussi des tests pour ces appelés. Ces appelés qui sont là, qui voient le terrorisme se multiplier et parfois se produire proche d'eux ou autour d'eux, qui voient les calamités, les bouleversements sur la scène mondiale, qui voient les difficultés de plus en plus grandes de vivre dans nos villes, de voyager et ainsi de suite. À tel point même que les États-Unis viennent de demander à leurs ressortissants d'être de plus en plus prudents lors de leur voyage à l'étranger. Et même, ils ont demandé de ne pas aller dans certains pays. Et ça va de plus en plus dans cette direction-là, parce que le monde change, comme ça avait été annoncé. Je vais vous le montrer tantôt. Et comme nous savons que ça doit se produire, mais nous ne devons pas avoir peur. Nous devons nous confier à Dieu, parce que ça devient des tests pour ses appelés, tests qui nous amènent à lui faire davantage confiance, à continuer de lui faire confiance, à continuer de s'en remettre à lui, à compter sur lui de plus en plus. Et plus on va le faire, plus on va le voir intervenir. Et de façon parfois très surprenante. Certains m'ont raconté des choses dernièrement frappantes à ce niveau-là, et c'est tellement encourageant quand on voit Dieu intervenir pour ces tout-petits, un d'une façon, l'autre de l'autre, pour préparer le terrain, pour leur donner la force de passer à travers ce que nous avons à vivre maintenant et ce que nous allons avoir à vivre un peu plus tard. Plus on connaît Dieu, le vrai Dieu, plus on s'applique dans ce sens-là à vivre selon ses lois, parce que pour le connaître, il faut avoir son esprit, et pour avoir son esprit, il faut travailler à lui obéir, parce que Dieu donne son Saint-Esprit à qui? À ceux qui lui obéissent, comme on voit dans Actes 5, verset 32. Mais plus dans ce sens-là, on connaît Dieu parce qu'on expérimente de vivre selon ses lois et qu'on le voit nous répondre, plus on est rassuré. Moins on a de questions et moins on a de doutes. Parce que par son Saint-Esprit, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on voit les choses de plus en plus comme lui les voit. Et ça, ça change tout. Quand on enlève notre petite perspective humaine qui est tournée vers nous-mêmes et vers la terre, on commence à voir la grande perspective de Dieu. Et là, l'encouragement nous vient parce qu'on réalise qu'il nous donne de comprendre ces choses-là et on voit où tout ça va mener et on apprend qu'on peut compter sur lui totalement. Vous savez, ce qui devait arriver est en train d'arriver en ce moment et de plus en plus. C'était écrit. C'était écrit, ces choses-là. C'était prédit. Et c'est marqué dans la Bible aussi que Dieu révèle à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. C'est écrit dès le début du livre d'Apocalypse. On connaissait par écrit les choses qu'on voit se produire sur la chaîne mondiale, et maintenant on les connaît par expérimentation lorsqu'on les voit dans les bulletins de nouvelles. Alors, en tant qu'appelé, en tant que serviteur de Dieu, qui nous efforçons de vivre selon ses lois, même si nous ne sommes pas parfaits, ça ne nous surprend pas réellement de voir arriver ces choses-là. On en est attristé, mais ça ne nous surprend pas de voir que les guerres se multiplient. Pourquoi? Parce que le Christ avait dit que comme signe qui allait précéder son retour, il allait y avoir de plus en plus de conflits, de guerres, de conflits ethniques et tout ça. Ça, je vous dis que ça ne nous surprend pas. On le savait par les textes. On le savait que ça allait arriver. On le savait qu'il y aurait une raréfaction de la nourriture au temps de la faim. Elle est en train d'arriver. Il y a plusieurs régions du monde qui sont affamées. Il y a une grande partie du monde qui ne mange pas à sa faim déjà. Et comme je vais vous montrer tantôt, les événements sont en place pour que le manque de nourriture sur la planète devienne de plus en plus important et cause des dommages. Alors, nous ne sommes pas surpris par ça parce que ça avait été écrit. On le voit arriver. On n'est pas surpris non plus de voir tous ces réfugiés, tous ces camps de réfugiés à travers le monde, de voir ces migrants qui sont dans une situation désespérante et désespérée en essayant d'entrer en Europe. J'ai vu cette semaine une déclaration de certains d'entre eux. J'ai trouvé ça épouvantable. On disait « Aidez-nous ou bien tuez-nous ». Ça, c'est parce qu'il n'y a plus d'espoir. « Aidez-nous ou bien tuez-nous ». Nous, on le voit arriver. Et on voit les violences dans nos villes qui étaient autrefois paisibles. Ça se multiplie autour de nous, autour de chez nous. Pour ceux qui avaient encore ou qui ont encore le privilège pour l'instant, de vivre dans des régions relativement calmes. Alors, on n'a pas été surpris, et on n'est pas surpris, même si ça nous attriste de voir ces souffrances-là, de telle sorte qu'on prie davantage Dieu que son règne vienne, que la libération arrive, et de nous donner la force de terminer le travail. Parce que voyez-vous, et ça c'est important qu'on le réalise, ça fait partie de la démarche qui doit devenir vraiment chrétienne. Nous ne sommes pas appelés pour prendre. Nous sommes appelés pour donner. Nous sommes appelés maintenant pour faire une œuvre, pour avertir le monde de ce qui vient, pour permettre à ceux que Dieu appelle de venir à l'Église, de connaître la vérité, de changer et d'être protégés des choses qui viennent. Nous sommes appelés pour donner et non pas pour prendre. Et c'est pour ça que quand Dieu nous appelle, on apprend à se détourner non seulement de nos fautes, mais, je dirais, de nous-mêmes. On commence à ne plus être centré sur nous-mêmes, ce qui était le cas de tous auparavant. Et on a encore parfois de la difficulté avec ça. Mais il faut se détourner de soi-même pour se tourner vers les autres, vers les besoins des autres. On a un rôle à jouer. Soutenir cette œuvre par les prières, par les dîmes, par les offrandes, par notre exemple, par le fait de nous préparer. Parce que quand le monde à venir sera là, il faudra dès le lendemain matin être prêt à aider les autres. Il faudra connaître ce que c'est que vivre en tant que chrétien, en tant que serviteur, en tant que personne qui aime vraiment les autres. Pas pour recevoir, mais encore pour donner. Par le Saint-Esprit, on apprend à faire ce que Dieu dit de faire. Et on voit les choses comme lui. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, s'il vous plaît. Un très beau chapitre qui nous révèle beaucoup de choses ici. Comment ça se fait qu'on peut voir les choses comme Dieu les voit? Regardez l'explication. Ici, il parle de la sagesse de Dieu qui n'est pas une sagesse humaine. Et il parle que Dieu doit nous donner son esprit pour qu'on voit les choses comme lui les voit et qu'on ait la force qu'on doit avoir. Cependant, c'est Paul qui parle, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, c'est-à-dire parmi ceux qui sont matures spirituellement ou parmi les appelés, parce qu'il n'y a personne de parfait en ce moment, dans le sens d'une perfection n'ayant plus rien à changer, c'est pas vrai. Alors, parmi ceux qui marchent dans la maturité, une sagesse qui n'est pas de ce siècle ou de ce monde. La sagesse dont il parle ici, ce n'est pas la sagesse des êtres humains par eux-mêmes. Les êtres humains ont une certaine sagesse qui leur permet de réaliser des choses, de négocier des choses, ainsi de suite. Ni des chefs de ce siècle qui vont être détruits, réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Tantôt, on parlait de l'amour de Dieu. On doit devenir amour de Dieu. On doit devenir amour comme Dieu est amour. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Cette sagesse-là, pour comprendre les choses, elle est mystérieuse aux yeux des hommes tant que Dieu n'appelle pas quelqu'un et qu'elle ne lui révèle pas les choses et ne lui donne pas la sagesse dont il a besoin. Cachée que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle, même les gens les plus instruits, les plus intelligents ou ayant les plus hauts postes, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Et à travers les événements qui se passent dans le monde actuellement, l'ensemble de l'humanité ne voit pas ce qui se trame derrière tout ça et là où tout ça va mener. Les hommes parlent encore d'établir eux-mêmes la paix. Et même les grands chefs religieux font des rencontres, font des voyages et essaient de prétendre qu'ils vont amener la paix. Mais ça ne viendra pas par les êtres humains. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alors cette sagesse-là, la façon de voir les choses, l'encouragement de savoir où ça mène. Que même dans ça et à travers tout ça, le grand patron, le gouverneur de l'univers est encore en charge. Et c'est lui qui mène ça à terme de bonne façon. Et le résultat sera le meilleur qu'il peut être. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, par son Saint-Esprit à lui. Car l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et c'est par l'Esprit de Dieu qu'on peut connaître le vrai Dieu. Alors, comprenez-vous que si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on ne peut pas vraiment connaître le vrai Dieu. Ça veut dire que si on ne s'applique pas à vivre selon toutes les lois de Dieu, y compris le sabbat et les fêtes, on n'a pas l'Esprit de Dieu et on ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Ça demeure un mystère. On peut avoir notre petite idée et on peut encore penser dans ce sens-là que les humains, s'ils ont assez de temps et assez de moyens, vont pouvoir se donner la paix sur la terre, alors que ce ne sera pas possible. Ça va venir seulement par l'intervention de Dieu. C'est par son Saint-Esprit, justement, et je reviens à ça, et je vais revenir aux événements qui frappent l'actualité en ce moment, c'est par le Saint-Esprit qu'on peut comprendre ce qui arrive. Et par son Saint-Esprit, on peut comprendre pourquoi ça arrive. D'ailleurs, il le dit dans sa Bible, je vais vous le montrer tantôt. Et où tout ça va mener, c'est seulement par son Saint-Esprit qu'on peut non seulement le savoir, mais en être convaincu. De sorte que quand les choses vont venir plus sombres qu'elles sont là, nous allons savoir que de l'autre côté de ça, il y a une lumière éblouissante qui s'appelle le royaume de Dieu, qui s'appelle la délivrance de toute l'humanité par le Christ à son retour d'ici quelques brèves années. Maintenant, pour prendre conscience de l'état du monde en ce moment, et c'est là que je veux en venir avec tout ça, de prendre conscience de l'état du monde en ce moment pour savoir où on est rendu, savoir qu'est-ce que Dieu est en train d'accomplir. Je veux vous donner certaines choses qui ont été publiées cette semaine dans le bulletin hebdomadaire de l'Église de Dieu, le World Ahead. Il y a la section Nouvelles prophétiques. Et j'ai tiré de là un certain nombre d'événements qui vont tous ensemble et qui nous montrent là où nous sommes rendus. La situation présente et en même temps, ça indique clairement les tendances de plus en plus fortes qui s'accentuent vers leur paroxysme pour l'accomplissement final des prophéties de Dieu et le retour du Christ. Un de ces éléments-là qu'on mentionne dans le World Ahead, c'est la sécheresse. Bon, mais j'ajoute un autre mot, la sécheresse mondiale, pas seulement dans une région du monde. Je vais vous dire un peu ce qui se passe à différents endroits pour que vous voyez l'ampleur que c'est en train de prendre avec les conséquences que ça va inévitablement amener et qui sera l'accomplissement des prophéties marquées dans la Bible. D'abord, la Californie, l'État le plus peuplé des États-Unis, 40 millions d'habitants, État de Californie. Elle vient d'entrer dans sa quatrième année de sécheresse record. Pas seulement sécheresse, sécheresse record, avec presque la moitié de l'État en situation de sécheresse extrême à exceptionnelle. Ça, c'est les dernières nouvelles qui ont été publiées il y a quelques jours. Et je vous rappelle une chose, c'est que l'État de Californie, jusqu'à maintenant, produit 50 % de tous les fruits et tous les légumes qui sont consommés dans l'ensemble des États-Unis. Et ils exportent ailleurs également. Et pour vous donner une idée de la gravité de la situation, c'est qu'au cours des dernières années, surtout depuis l'an passé et cette année, comme il n'y a plus d'eau, il n'y a plus suffisamment de neige dans les montagnes qui fond au printemps et descend pour aider le sol, qu'il n'y a plus suffisamment de pluie, les cultivateurs doivent creuser des puits pour aller chercher l'eau des nappes phréatiques, c'est-à-dire l'eau qui est accumulée dans le sous-sol. Je ne savais pas, mais il y a trois niveau de nappe phréatique. Ils ont vidé les deux premiers niveaux pour arroser leurs champs et produire. Ils sont rendus au troisième niveau. Ils doivent creuser jusqu'à 500 mètres dans le sol pour aller chercher l'eau, pour la pomper, pour arroser les cultures. Mais ils arrivent au bout. Et maintenant, ce que ça fait, c'est que les sols s'affaissent. Comme il n'y a plus de masse d'eau en dessous, les sols, par la pesanteur, s'affaissent. Les maisons deviennent fissurées, les fondations et ainsi de suite. Alors, vous avez une série d'autres problèmes qui s'ajoutent. J'ai vu un cultivateur qui avait, je pense, 2000 têtes de bétail qui dit, pour moi, il n'y a plus d'agriculture. Il n'ensemence même pas son champ cette année. Ça vous donne une idée. Ça, c'est la Californie. Maintenant, je vais plus loin. Afrique du Sud. On dit que l'Afrique du Sud, c'est marqué dans The Guardian, il y a quelques jours encore, connaît la pire sécheresse depuis des décennies. Cette sécheresse menace de se répercuter sur l'économie, avec la perte d'emplois dans l'agriculture et la hausse des prix de l'alimentation pouvant conduire à des révoltes sociales. Oui, parce qu'à un moment donné, les gens vont vouloir aller chercher de quoi manger là où ils peuvent en trouver. Ça crée toute une situation sous tension. Ça, c'est l'Afrique du Sud. On a parlé de la Californie, là, on parle de l'Afrique du Sud. Indonésie, maintenant. On s'en va dans une autre région du monde. Cette région-là subit actuellement ce qui pourrait être la pire sécheresse de son histoire. Voyez-vous, on ne parle pas de choses minimes à un endroit ou à un autre seulement. On parle toujours de choses extrêmes. La pire sécheresse de son histoire qui réduit drastiquement les zones cultivables pour le riz, parce qu'elles dépendent beaucoup de la culture du riz. Ça, c'est l'Indonésie. On continue. En Inde, près de la moitié des États sont affectés par la sécheresse. La moitié des États de l'Inde sont affectés par la sécheresse, y compris des régions très peuplées et productrices de céréales, encore la nourriture qui est touchée. Le Brésil, connaît la pire sécheresse depuis un siècle, qui a sérieusement réduit l'approvisionnement en eau à Sao Paulo, la plus grande ville de l'hémisphère occidental. Et les habitants stockent de l'eau dans des containers ouverts, ce qui contribue à l'épidémie de dengue propagée par les moustiques. Alors, voyez-vous, tous les autres problèmes qui se greffent au manque d'eau, aux sécheresses extrêmes. Et je vous fais remarquer que là, on parle seulement des sécheresses, et je n'ai pas élaboré pour aller dans d'autres régions, mais tout ça arrive en même temps, au même moment, et en même temps que d'autres événements. Allez dans Joël chapitre 1, s'il vous plaît. Le livre de Joël chapitre 1. On va voir quelque chose qui a un rapport avec ça ici. Joël chapitre 1. De nos jours, il y a peu de gens qui font le lien entre la Bible et les événements dont je vous parle, mais les anciennes prophéties bibliques, c'est écrit, avaient annoncé l'arrivée de sécheresses majeures, de famines et d'épidémies, au milieu d'autres troubles, comme nous allons voir aussi, alors qu'on approche la fin des temps prophétisés par le Christ. Joël 1, on va lire les versets 15 à 20. Versets 15 à 20. Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Le jour de l'Éternel, on sait que c'est la dernière année des trois années et demie de ce qu'on appelle la grande détresse. Mais avant que ça se produise, les événements vont en s'augmentant, en empirant. Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous vos yeux? Ce que je viens de vous décrire, est-ce que ça ne pourrait pas être les stages préliminaire aux choses extrêmes qui vont venir de grandes, grandes famines, alors que c'est déjà un peu comme ça. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux? C'était annoncé comme devant venir. La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu? Les semences ont séché sous les mottes. Ceux de Californie et ceux des autres régions affectées par les sécheresses le voient. Les greniers sont vides. Les magasins sont en ruine. Car il n'y a point de blé. Ça, c'est l'extrémité de ce qui va arriver, mais on est en train de se diriger vers là. Comme les bêtes gémissent, les troupeaux de bœufs sont consternés parce qu'ils sont sans pâturage. Et même les troupeaux de brebis sont en souffrance. C'est vers toi que je crie, ô Éternel, car le feu a dévoré les plaines du désert et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Les bêtes des champs crient aussi vers toi, car les torrents sont à sec. Et quand vous regardez les images de la Californie et de d'autres régions du monde, on voit des grands lacs qui sont asséchés complètement ou pratiquement asséchés. On voit le terrain séché, fissuré, car les torrents sont à sec et le feu a dévoré les plaines du désert. Et l'an passé et encore cette année, on a vu des feux dans les montagnes, on a vu des feux de forêt ravager les régions entières. Et après ça, les sols deviennent très, très fragiles lorsqu'il y a des pluies subites qui arrivent. Et Dieu avait dit, je vais faire pleuvoir dans une région et pas dans une autre. Et parfois, lorsqu'il pleut abondamment dans une région qui est comme ça déjà affaiblie parce que les sols sont en mauvais état ou qu'il y a eu feu de forêt, il y a glissement de terrain, il y a des conséquences encore plus graves qui se produisent, qui continuent de se multiplier. Ça avait été annoncé. Où est Dieu dans tout ça? Où est Dieu dans tout ça? Il a respecté le choix de toute l'humanité depuis le début. Il a respecté le choix de toute l'humanité depuis le début. L'humanité qui l'a rejetée depuis Adam et Ève. Israël a rejeté l'Éternel aussi. Toute l'humanité a rejeté l'Éternel. Ce qui arrive, c'est la conséquence annoncée pour les temps de la fin. Conséquence de la malheureuse expérimentation humaine que les êtres humains ont décidé de faire en disant à Dieu, on ne veut pas que tu nous dises quoi faire, on ne veut pas avoir de tes lois, on veut faire ce que nous voulons faire. Et maintenant, ils en récoltent malheureusement les fruits. Sécheresse, guerre, violence, même dans nos villes, grande insécurité de plus en plus, le terrorisme qui s'étend. Il y a eu les attentats à Paris. La Belgique est encore actuellement sur les dents parce qu'on n'a pas trouvé les islamistes qui veulent faire des attentats. Et c'est comme ça aux États-Unis aussi. Et ça va s'étendre à d'autres pays parce que c'est loin d'être terminé. Pendant ce temps-là, en Israël, si vous remarquez dernièrement, ce sont des attaques au couteau qui se multiplient presque à chaque jour où des Palestiniens s'en prennent de façon inattendue et sauvage à des Israéliens qui vaquent à leurs occupations. Aux États-Unis, ce sont les fusillades qui se multiplient. J'entrerai pas dans les questions de l'économie qui est à risque de plus en plus, mais simplement pour vous donner un état de la situation. Et ce ne sont pas des choses que j'invente. On les voit sur les bulletins de nouvelles. Où est Dieu dans toutes ces tragédies? Dieu, il est en charge. Il est en commande. Il est sur son trône depuis le début. Et il est bien sûr attristé des souffrances humaines, sachant que ses enfants doivent passer par là pour comprendre et accepter de changer. Si ça avait pu être autrement, Dieu l'aurait fait autrement. Mais il doit les laisser aller jusqu'à une certaine limite pour qu'ils apprennent. Dieu est amour, et c'est pour ça qu'il les laisse aller à expérimenter ces choses-là et à vivre les conséquences de leur choix. Ce n'est pas Dieu qui a détruit la couche d'ozone. Absolument pas. C'est les êtres humains. Ce n'est pas Dieu qui a pollué les rivières et les lacs. Absolument pas. C'est les êtres humains. On peut prendre toute la liste des choses qui vont de travers, qui vont mal dans le monde, et on peut voir que c'est l'humain qui a causé ces choses-là par ses mauvais choix, ses mauvaises décisions. Pourquoi les familles brisées? C'est parce que des lois ont été brisées, parce qu'il y a eu infidélité. Et tout ce genre de choses-là, pourquoi est-ce qu'il y a des enfants abandonnés? Justement parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas l'engagement de leur mariage ou qui ne se sont même pas mariés. Et les enfants, après, sont laissés à eux-mêmes ou à peu près et grandissent dans des conditions parfois difficiles. Et s'ils ne trouvent pas l'aide dont ils ont besoin, parfois vont eux-mêmes vivre des situations encore plus terribles parce qu'ils n'ont pas appris. Ils n'ont pas eu de modèle, ce qu'ils devraient avoir. Parce que Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils auront des enfants, ils en prendront soin, et ainsi de suite. Mais quand ce n'est pas fait, il y a des conséquences, et il y a des gens qui en souffrent, y compris les premiers impliqués dans le couple et les enfants. Dieu est amour, et ses lois sont des lois d'amour. Quand il dit, tu ne voleras pas, ce n'est pas pour priver personne de rien. Au contraire, c'est pour que tous soient en paix. Et dans le monde à venir, il n'y aura pas de vol et les gens vont être en paix, vont laisser leur porte déverrouillée. Ce sera complètement différent comme monde. Les lois de Dieu sont des lois d'amour. Dieu avait mis en garde l'ancienne nation d'Israël que si elle se détournait de lui et méprisait ses lois, qu'elle souffrirait énormément de sérieuses conséquences. Allez dans Lévitique 26, s'il vous plaît. Lévitique 26, vous pourrez lire tout le chapitre. Je ne prendrai pas le temps de le lire ici, mais ça décrit de façon très claire l'avertissement que Dieu avait donné et ce qui arrive lorsqu'on ne met pas ça en pratique. Israël en a payé le prix, Israël ancien. Maintenant, nos nations israélites modernes ont fait la même chose qu'Israël ancien et vont subir les mêmes châtiments. Il y a une dualité ici de réalisation de ces prophéties-là. Et Lévitique 26, verset 14. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois, et si votre âme a en horreur mes ordonnances, et c'est ce qu'on voit autour dans la société, les gens ne veulent plus entendre même parler de Dieu ni même de ses lois, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. La menace que Dieu avait faite et qu'il est en train de mettre à exécution, j'enverrai sur vous quoi? La terreur, le terrorisme. Il y a quelques années, on ne pouvait pas imaginer à quel point cette prophétie-là deviendrait réelle. Mais là, on la voit sous nos yeux, avec Daesh qui s'étend de plus en plus au Moyen-Orient et qui prend pied en Europe et qui met les nations européennes sur les dents. La terreur, j'enverrai sur vous la terreur, c'est commencé et ça s'en va vers son terme, à moins que nos nations ne changent. Mais on voit par la Bible que très peu de chances qu'ils changent. J'enverrai sur vous la terreur, la langueur et la fièvre. Les maladies qui vont se multiplier, les épidémies que le Christ a annoncées pour le temps de la fin, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante, et vous sèmerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Les États-Unis ne gagnent plus de guerre, au contraire, ils fuient pour ainsi dire, et ils sont coincés dans toutes sortes d'engagements à travers le monde, et ils sont en train de perdre la face. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuirez sans qu'on vous poursuive. Et vous voyez déjà en Europe les gens se sauver, dire qu'ils n'ont pas peur. Mais plus ils disent qu'ils n'ont pas peur, c'est parce qu'ils ont peur, justement. S'ils se sentent obligés d'affirmer qu'ils n'ont pas peur et que dès qu'il y a un bruit, comme on a vu l'autre fois dans la rue, alors qu'il y avait des chandelles qui avaient été disposées à terre pour rendre hommage à ceux qui avaient été tués dans cette attente-là, dès qu'il y a eu un bruit bizarre, les gens se sont mis à courir et à courir à travers ces chandelles-là et les bouquets de fleurs qui avaient été mis au sol. Les gens ont peur. La terreur. Et on fuit sans qu'on les poursuive réellement. Et ce sera encore plus vrai dans l'avenir. « Si malgré ça, vous ne m'écoutez point, je vous châtirai 7 fois plus pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force, force militaire, force économique. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. » La terre devient comme de l'airain, comme du fer. À quel moment? Quand il n'y a plus d'eau. Comme on voit en Californie, comme on voit au Brésil, comme on voit en Inde, comme on voit dans de plus en plus d'endroits à travers le monde qui ont été jusqu'à maintenant les fournisseurs de l'alimentation du monde. Votre force s'épuisera inutilement. Votre terre ne donnera pas ses produits et les arbres de la terre ne donneront plus leurs fruits. Si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. J'enverrai contre vous les animaux des champs qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront votre bétail et qui vous réduiront à un petit nombre et vos chemins seront déserts. Si les châtiments ne vous corrigent pas jusqu'à ce point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi, je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés, je ferai venir contre vous l'épée qui vous vengera, qui vengera mon alliance. Quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. » Et ça, ce sont les autres châtiments qui suivront, qui vont venir par après. Dieu a prédit la captivité de nos nations israélites modernes, qui seront amenés, comme les Juifs l'ont été amenés dans les camps de concentration à la Deuxième Guerre mondiale. Ce sera le sort réservé à de grandes parties de nos populations, de nos peuples israélites modernes, qui se sont détournés totalement de Dieu. Le prophète Ésaïe avait averti aussi. Il dit, « Ils ont abandonné l'Éternel, ils se sont retirés en arrière. » Et Dieu dit, « Je suis là de les supporter. » Dieu est patient, c'est vrai, mais sa patience a une limite. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Pourquoi? Parce que les gens ne cherchent pas à obéir à Dieu. Dieu entend celui qui veut faire sa volonté. C'est ça qu'on voit dans sa Bible. Vous irez voir ce que je vous cite, c'est Ésaïe 1, verset 4, et versets 14 et 15. Ésaïe a exhorté la nation pécheresse à se repentir. Israël, et à revenir à Dieu. Mais le peuple a refusé et le peuple a été puni. Vous pourrez lire ça dans Ésaïe 1, versets 16 à 25. Vous savez, les nations israélites actuelles se sont détournées des valeurs morales bibliques qui les distinguaient autrefois du reste du monde. Et c'est vrai. Quand on regarde, il y a quelques dizaines d'années, nos nations israélites, ils avaient un certain comportement éthique, il y avait certaines valeurs, certains principes. Mais maintenant, ça a été presque complètement mis dehors. Ce qu'on entend à la radio, ce qu'on voit à la télévision, même dans les bulletins de nouvelles parfois, ou dans certaines émissions, c'est qu'on se moque des valeurs qui faisaient autrefois la force de nos nations. On s'en moque, on rejette tout ça. Alors, nos nations actuelles ont rejeté les valeurs morales bibliques qui ont fait notre force. Et c'est pourquoi Dieu permet que ces anciennes prophéties se réalisent. Elles sont en train de se réaliser sous nos yeux. Et on parle des nations israélites modernes, on parle de qui? On parle de la France, de la Belgique, de la Suisse, d'autres nations au nord-ouest de l'Europe, le Canada, les États-Unis, les nations du Commonwealth. Afrique du Sud aussi également, bien sûr. Catastrophes et calamités frappent de plus en plus fort et de plus en plus souvent. Ça, c'est la réalité. Et les gens sont coupés de Dieu, et parce qu'ils sont coupés de Dieu et qu'ils ne connaissent pas le vrai Dieu, ils ne font pas le lien entre leur mode de vie qui est contraire aux lois de Dieu et les conséquences qui arrivent dans le monde à travers ces calamités. Ils ne font pas le lien entre les deux. Il va falloir qu'à un moment donné, ils comprennent d'où ça vient pour vouloir à tout prix ne plus répéter ces comportements-là. Et c'est ce que Dieu va leur enseigner. C'est fort parce que certains dirigeants religieux, des grands chefs de grandes religions, là, certains dirigeants religieux devant tout ça, devant les calamités puis les catastrophes qui se multiplient et qui deviennent de plus en plus grandes, ne comprennent plus ce qui se passe. Pourquoi ils ne comprennent pas? parce qu'ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Ça revient à ce que je vous expliquais tantôt. Je vais vous donner un exemple qui est très, très fort de ça. Certains dirigeants religieux commencent même à remettre leur foi en cause. S'il y en a qui doivent normalement, entre guillemets, avoir la foi, ou au moins une certaine foi, ça doit être les chefs des grandes religions du monde. Mais certains d'entre eux commencent à remettre leur foi en question devant l'énormité de ce qui arrive. Ils ne comprennent plus. Et plus que ça, ils en viennent à douter de Dieu. Officiellement, je vais vous citer ici la déclaration d'un ministre important dans une grande église, un des chefs d'église, qui ne comprend pas ce qui arrive et qui en est rendu à douter de Dieu. L'archevêque de Canterbury, Justin Welby, a déclaré qu'il en est venu à se demander pourquoi les attaques avaient eu lieu, en parlant de celles qui sont arrivées en France et tout ça, et où était Dieu? Et où était Dieu pendant que les victimes françaises en avaient besoin? La question qu'on pose quand on ne connaît pas le vrai Dieu et qu'on ne sait pas pourquoi ces choses-là arrivent et qu'on ne comprend pas les lois de Dieu et qu'on ne sait pas ce qui s'en vient. Alors, il s'est demandé pourquoi les attaques avaient eu lieu et où était Dieu pendant que les victimes françaises en avaient besoin. Lorsqu'on lui a demandé si ces attaques l'avaient fait douter si Dieu était là, il a répondu « oui ». Et il a admis que cela avait créé une faille dans son armure. Donc, non seulement il n'a plus la foi comme il l'avait, mais il doute même de Dieu lui-même. Et vous savez une chose? Je vais vous montrer quelque chose qui va vous encourager. Dieu savait que ça allait venir de même. Et Dieu savait que les faux ministres, même des grandes religions, qui prétendent avoir la foi, mais c'est leur foi à eux, c'est pas la foi du Christ, là. C'est pas la vraie foi encore là, mais qui prétendent croire en Dieu, devant ça, sont bouche bée, n'ont pas de réponse, et c'est frappant de voir comment Dieu avait justement prévu ces choses-là. Allez dans Ézéchiel, s'il vous plaît. Ézéchiel, on va aller dans le chapitre 7. Ézéchiel, chapitre 7. On va lire les versets 26 et 27. Et regardez comment ça décrit ce qui est en train de se passer sur la scène mondiale alors que les calamités se multiplient à une échelle jamais vue auparavant. Ézéchiel 7, verset 26. « Il arrive, malheur sur malheur. Un bruit succède à un bruit. » Ça ne ressemble pas à ce que vous voyez dans vos bulletins de nouvelles. « Il demande des visions aux prophètes. » Les gens demandent à leur ministre qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe, comment on peut comprendre ces choses-là. Les sacrificateurs, c'est-à-dire les ministres, les faux ministres, ne connaissent plus la loi. Ils ne connaissent plus la loi de Dieu. Donc, ils ne la pratiquent pas non plus. Ils n'invitent pas les autres à la pratiquer. Et c'est pour ça que le voile est là. Ils ne peuvent pas comprendre. Les sacrificateurs, les ministres, les faux ministres ne connaissent plus la loi. Les anciens n'ont plus de conseils, ne peuvent pas aider les gens dans ces circonstances-là. Et regardez, le roi se désole. Les chefs d'État se désolent. Ils ne savent plus quoi faire. Ils multiplient les rencontres à travers le monde pour essayer d'établir la paix, alors qu'il y a de moins en moins de paix. Le roi se désole, le prince s'épouvante. Les mains du peuple du pays sont tremblantes, comme on a vu dans les bulletins de nouvelles en Europe et comme on verra dans d'autres de nos pays bientôt. « Je les traiterai selon leur voie, Dieu avait averti. Je les jugerai comme ils le méritent et ils sauront que je suis l'Éternel. » Voyez-vous, Dieu va établir la preuve définitive que c'est lui, le grand créateur de l'univers, qu'il a toujours été en contrôle, qu'il a donné à l'humanité toutes les chances de comprendre, à commencer par Adam et Ève. Il a même envoyé ses prophètes à travers l'histoire pour dire à la nation d'Israël de revenir vers lui. Non seulement ils ont rejeté Dieu, mais souvent ils ont tué les prophètes en question. Et quand Dieu a envoyé son propre fils, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont accepté son message? Non, ils ont tué le Christ. Ça devait être comme ça, c'était dans le plan de Dieu. Mais c'est pour vous donner une idée comment l'être humain est et comment loin il peut aller pour rejeter Dieu. C'est ce qui s'est passé. Et Dieu vous a appelé, vous. Dieu m'a appelé, moi. Il nous a révélé des choses extraordinaires. Il nous encourage même dans les choses qui arrivent parce qu'on sait l'issue de ces choses et on sait qu'on peut compter sur celui qui a promis de ne jamais nous abandonner. Le Christ qui a dit « Je vais être avec vous jusqu'à la fin ». Annoncer la bonne nouvelle au monde entier, je serai avec vous jusqu'à la fin des jours. Et Dieu nous a appelés parce qu'il sait qu'avec son aide, on peut accomplir son œuvre. Et on a été appelés pour donner, pour accomplir son œuvre et pour nous préparer à donner davantage lorsque le monde à venir sera là. Et Dieu nous a appelés pour qu'on puisse arriver au but. Et si Dieu vous a appelé, vous, c'est parce qu'il sait qu'avec son aide, vous pouvez arriver au but. La seule personne qui peut vous empêcher d'arriver au but, c'est vous-même. Et c'est moi-même. Parce que lui va tout faire en son pouvoir pour vous donner tout ce dont vous avez besoin pour y arriver. Mais vous demeurez libre jusqu'à l'autre bout, jusqu'au retour de Christ, de vos choix de chaque jour, de l'établissement de vos priorités, de respecter vos priorités, de lire la Bible, de vous nourrir chaque jour de la parole de Dieu, de prier chaque jour, de jeûner régulièrement, d'observer les lois de mieux en mieux, de lui demander son aide dans ce sens-là. On a un rôle à jouer, on a un travail à finir. Il faut annoncer la bonne nouvelle comme témoignage. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Et quand il y a des moments de creux de vague, il faut crier encore davantage. Et quand le creux de vague est trop gros ou trop subi, on peut se mettre à jeûner tout de suite pour que Dieu nous vienne en aide. Et Dieu répond toujours à celui qui le cherche avec l'idée de faire sa volonté. Avec cette compréhension que Dieu nous donne, nous ne dirons pas où était Dieu. On ne dira jamais où était Dieu. Ou on ne dira jamais où est Dieu dans telle ou telle circonstance. Nous allons savoir avec certitude, comme il l'a promis, qu'il n'allait jamais nous abandonner, jamais nous délaisser, donc qu'il sera toujours à nos côtés si nous restons proches de lui. Si on s'en remet à Dieu en faisant notre part, nous allons terminer l'œuvre avec foi, avec courage.